Doha, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 27 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sédounia. Tout d'abord les titres. Niger, Mohamed Bazoum et son gouvernement rejettent le coup d'état des militaires. En Burkina Faso, l'armée demande de fausses informations sur des mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires. Au Mali, la junte fustige les sanctions américaines contre trois de ses responsables. Washington appelle les dirigeants africains à confronter Poutine sur la crise céréalière lors du sommet Russie-Afrique à partir de ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, plaide non coupable de fraude fiscale après la suspension d'un accord. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho. Pour l'instant, le journal. Le président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré par des militaires putschistes à Niamey, et son chef de la diplomatie Assoumi Massoudou ont rejeté ce jeudi le coup d'État au Niger, affirmant dans des messages séparés toujours représenter les autorités légitimes du pays. Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront, a déclaré M. Bazoum dans un message publié vers 5h GMT sur Twitter, rebaptisé X. Ce message est intervenu quelques heures après que des militaires ont annoncé sur la télévision nationale avoir renversé le président élu démocratiquement en 2021. « Nous sommes les autorités légitimes et légales », a de son côté déclaré sur France 24 Amoudi Massoudou, chef de la diplomatie nigérienne et chef du gouvernement par intérim, en l'absence du Premier ministre qui était en déplacement officiel à Rome au moment du putsch. Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, a-t-il martelé, ajoutant que M. Bazoum était en bonne santé. « Il y a eu une tentative de coup d'État, mais ce n'est pas la totalité de l'armée qui a engagé ce coup d'État », a assuré M. Massoudou, qui se trouve à Niamey. « Nous demandons à ces officiers factieux de rentrer dans les rangs. Tout peut s'obtenir par le dialogue, mais il faut que les institutions de la République fonctionnent », a-t-il poursuivi. Partout au Niger, l'ordre républicain, l'ordre démocratique doit pouvoir fonctionner. Nous lançons un appel à l'ensemble des patriotes et démocrates nigériens pour qu'ils se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette faction, à cette action factieuse qui tend à nous ramener 10 ans en arrière et à bloquer les progrès de notre pays, a-t-il lancé. La situation reste confuse à Niamey, où les putschistes ont annoncé la suspension des institutions et la fermeture des frontières du pays. Dans un communiqué lu hier soir, ils ont reproché au président Bazoum un manque de vision face à la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays, mais également une mauvaise gouvernance économique et sociale. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le communiqué a été lu un peu avant minuit ce mercredi par le colonel-major Amadou Abdraman, directeur des relations publiques à l'état-major général des armées du Niger.
Ce jour, 28 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités du Niger.
c'était donc la fin d'un suspense qui a duré toute la journée de ce mercredi. Tôt, en effet, des informations ont circulé sur d'abord un mouvement d'humeur au palais présidentiel, ensuite sur le fait que c'est le président Mohamed Bazoum et sa famille qui seraient pris en otage avant que les rumeurs d'un coup d'État n'apparaissent, avec comme une heure des éléments de la garde présidentielle dirigée par le chef du DICOR, le général Tchani Oumarou. Ce dernier ne figure tout de même pas dans le groupe de militaires apparus à la télévision nationale pour le communiquer. On y voit plutôt son adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant des forces spéciales, entre autres. L'organe des nouvelles autorités du Niger se nomme Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le nom de son président n'est pas connu, mais ils affirment gérer la situation.
Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer.
Cette dernière partie de la déclaration des nouvelles autorités fait sans doute allusion à la venue annoncée ce jeudi à Niamey du président béninois Patrice Talon pour une médiation de la CEDEAO. Le Niger se réveille donc aussi avec des militaires à sa tête dans un contexte sécuritaire sous-régional assez préoccupant. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient ainsi le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda à connaître un coup d'État depuis 2020. Pour une réaction, Yacouba Ouédraogo, adjoint à Agadez dans le nord du Niger, Ibrahim Manzo Diallo, journaliste à la radio Aïr Info.
Et je vous confirme que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie vient de faire une déclaration à la télé nationale. Ils disent avoir mis fin au régime que nous connaissons, c'est-à-dire le régime de Bazoum Mohamed. Depuis la déclaration, un couvre-feu a été instauré et ils disent qu'ils ont désormais le contrôle de la situation et ils ont fait ce coup d'État à cause de la mauvaise gouvernance sécuritaire, économique et sociale en cours au Niger.
Quel est le sort du président Mohamed Bazoum, selon les putschistes?
Les putschistes ont dit eux-mêmes qu'ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité physique de toutes les autorités déchues, de respecter les engagements souscrits par le Niger sur le plan international et même national. Nous pensons que Bazoum est en bonne santé et qu'ils sont encore dubitatifs sur le sort des autres personnels. Que jusqu'à présent, cette junte n'a pas donner le nom du chef qui va présider aux destinées du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Justement, leur communiqué lu à la télévision nationale cite toujours le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On sait que c'est la garde présidentielle qui avait entamé ce mouvement qui aboutit à un coup d'État. Est-ce que c'est le même général Oumar Tchani, par exemple, qui est à la tête justement de cette garde présidentielle?
On n'a pas de nouvelles du général Tchani, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas seulement la garde présidentielle qui était à la télé, parce que nous avons vu le haut commandant en second de la garde nationale, nous avons vu le communicateur de l'armée de l'air, et c'est toutes les armées qui sont à la télé et qui ont fait le communiqué.
Donc vous pensez que toute l'armée nigérienne s'est ralliée à la cause de la garde présidentielle qui a commencé le mouvement?
Exactement, toute l'armée s'est ralliée parce que individuellement pris, ce qui était à la télé tout à l'heure, je vous dis que c'est les composantes différentes forces de sécurité du Niger.
Ils parlent de mauvaise gouvernance et de dégradation de la sécurité qui leur aurait conduit à ce coup de force contre Mohamed Bazoum et son régime. Qu'est-ce que vous en savez davantage?
C'est un secret des polichinelles que la sécurité au Niger se dégrade de plus en plus. Les forces du mal qui viennent des autres pays voisins qui sont en train de gagner du terrain au Niger. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a aucune mesure pour contenir les assauts de ces gens-là vers les villages de la région de Tillabéri, par exemple. Toute la région de Tillabéri, il faut le dire, est en train de quitter des villages parce que ces villages tombent un après un dans les mains des terroristes.
Malgré la présence renforcée de la France, je vais dire, Barkhane qui a quitté le Mali et qui a rallié le Niger.
Oui, mais une présence d'armées étrangères qui n'est pas du tout du goût des Nigériens dans leur ensemble. Les Nigériens ont toujours fustigé et critiqué la présence de ces forces de sécurité et qui ne servent pratiquement à rien parce que les attentats continuent.
Il y avait une médiation de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui a échoué. Le président Patrice Talon est l'envoyé de la CEDEAO à Niamey. Les putschistes ont appelé la communauté internationale à ne pas s'ingérer dans cette affaire qu'ils qualifient d'interne. Quel serait le lendemain pour le Niger?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que Patrice Talon n'a pas eu le temps d'atterrir à Niamey parce qu'il était attendu, c'est vrai, ce soir, mais aux dernières nouvelles, son vol a été remis au lendemain, c'est-à-dire à demain 9h30. Maintenant, avec la consommation du coup d'État, je ne pense pas que Patrice Talon puisse mettre les pieds au Niger. Ils vont d'abord attendre, voir comment ça va se développer, pour venir peut-être chercher à sauver la vie des autorités du FU.
Ibrahim Mandou Diallo, journaliste à la radio AIR Info à Agadez. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement le changement anticonstitutionnel du gouvernement au Niger, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric mercredi. Le secrétaire général appelle à la cessation immédiate de toutes les actions qui sapent les principes démocratiques au Niger, a ajouté M. Dujarric. Auparavant, la Maison-Blanche avait exigé spécifiquement que les membres de la garde présidentielle libèrent le président Bazoum et s'abstiennent de toute violence, rappelant que le Niger est un partenaire crucial pour les États-Unis. Plus tard, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avait conditionné la poursuite du versement de l'aide américaine au Niger au maintien de la démocratie. Pour sa part, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait réagi mercredi en déclarant que la France condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force et s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'armée a démenti hier de fausses informations qui ont fait état de mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires. Pour le chef d'état-major général des armées, il s'agit d'allégations sans fondement dont l'intention manifeste est de manipuler l'opinion publique. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le communiqué est signé par le chef d'état-major général des armées. Il explique que de fausses informations faisant état de mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires circulent depuis des heures sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées apporte un démenti catégorique à ces allégations dont l'intention manifeste est de manipuler l'opinion publique, indique l'armée. L'état-major rappelle que dans ce contexte d'engagement opérationnel intense pour la reconquête du territoire national, l'ensemble des Burkinabés devrait soutenir les forces combattantes et rester vigilants face aux tentatives de démoralisation orchestrées par des individus aux intentions malveillantes. Enfin, le chef d'état-major général des armées a félicité l'ensemble des forces combattantes pour les multiples efforts déployés dans le cadre de la reconquête du territoire national. Des rumeurs qui se déroulent alors que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en Russie pour le sommet Russie-Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La junte au pouvoir au Mali a fustigé mercredi soir les sanctions économiques des États-Unis visant l'actuel ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, ainsi que le colonel Alou Bouadiara et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, tous deux responsables dans l'armée de l'air. Washington les accuse d'avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités malveillantes du groupe paramilitaire russe Wagner dans leur pays. Ces nouvelles mesures, contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement, viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali, affirme le gouvernement malien dans un communiqué transmis hier soir à l'AFP. Les États-Unis diabolisent nos partenariats et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité à travers l'adoption de ces mesures sans effet, selon le communiqué. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté jeudi les dirigeants africains participant à un sommet avec le président russe Vladimir Poutine, a exigé des réponses sur la crise céréalière qui a plongé les pays les plus pauvres dans la crise. Michel Joseph.
S'exprimant à la veille d'une rencontre russe-Afrique à Saint-Pétersbourg, ville natale de M. Poutine, M. Blinken a insisté hier sur le fait que les dirigeants africains savaient que l'augmentation du coût des denrées alimentaires et les pénuries de céréales et d'engrais étaient la conséquence directe de la guerre menée par M. Poutine en Ukraine. Des délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État, sont attendues au sommet. Ils savent exactement qui est responsable de la situation actuelle, a déclaré M. Blinken à propos des dirigeants, dont certains ont offert un soutien tacite à Moscou ou ont refusé de dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. La crise céréalière s'est intensifiée depuis que la Russie a abandonné un accord qui permettait depuis l'été 2022 à l'Ukraine d'exporter, y compris vers l'Afrique, ses céréales par la mer Noire, malgré le blocus russe des ports ukrainiens. Qu'ont-ils fait depuis qu'ils se sont retirés? Ils ont bombardé à plusieurs reprises le port d'Odessa, ils ont posé des mines dans la mer Noire, ils ont expressément menacé la circulation de cargaisons maritimes. Je pense que c'est un message très clair, a souligné M. Blinken au sujet des Russes.
Ici aux États-Unis, Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a décidé hier de plaider non coupable face aux accusations de fraude fiscale après la suspension d'un accord initialement négocié avec un procureur, selon des documents judiciaires, Jacques Aristide.
Cet accord initial entre le procureur de l'État du Delaware et Hunter Biden, conclu le mois dernier, qui prévoyait que le fils du président américain plaide coupable de fraude, a été suspendu par la juge Marie-Hélène Noriega, notamment parce qu'il portait également sur une autre affaire de violation de la législation sur les armes à feu. En l'absence d'accord, que les parties devront tenter de renégocier, Hunter Biden, 53 ans, a donc plaidé non coupable. Ses ennemis judiciaires, qui viennent perturber la campagne de réélection de son père, auraient pu trouver un terme avec cet accord, qui prévoyait une mesure de probation pour deux chefs d'évasion fiscale. L'accord prévoyait également de mettre fin aux poursuites pour possession illicite d'armes à feu en échange de sa participation à un programme de réhabilitation. Interrogé à ce sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé qu'Hunter Biden était un citoyen comme un autre et qu'il s'agissait d'une affaire privée. Karine Jean-Pierre a ajouté que le dossier était géré indépendamment par le département de la justice sous la direction du procureur David Weiss, nommé sous l'administration de Donald Trump.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Zambie est éliminée de la Coupe du Monde féminine.
Oui, après leur lourde défaite d'entrée devant le Japon 5-0, les Zambiennes se sont encore inclinées sur le même score devant les Espagnols. Avec deux défaites en deux sorties, la Zambie est out du mondial avant son dernier match pour l'honneur contre le Costa Rica lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Par contre, après un premier succès tout aussi convaincant contre le Costa Rica 3-0, les Espagnols sont assurés de terminer dans les deux premières places du groupe C, qualificatif pour les huitièmes de finale, tout comme le Japon, qui a aussi battu le Costa Rica 2-0. Dans le groupe B, le Canada, après une première déception contre le Nigeria 0-0, a lutté pour battre l'Irlande 2-1 et se relancer dans la course au tour suivant. Les Irlandaises sont éliminées. Ce jeudi, dans le groupe B, les Super Falcons du Nigeria voudront décrocher leur première victoire dans ce mondial face aux Australiennes, toujours privées de leur attaquante Sam Kerr, blessée.
Basketball, l'Afro-Basket Filles Senior commence demain vendredi.
La compétition va se disputer jusqu'au 6 août à Kigali au Rwanda, 12 pays dont le Mali y prennent part. Avant de s'envoler pour le Rwanda, le sélectionneur des Aigles Senior Filles du Mali, Oumarou Sidiya Maïga, a indiqué que l'objectif de son équipe est de remporter le trophée.
Nous estimons qu'on a gagné assez de trophées dans les trois catégories. Et si nous faisons la jonction entre toutes ces catégories, normalement on doit avoir une équipe très compétitive en Afrique. L'état d'esprit est bon, on a une équipe fin prête qui peut aller conquérir le titre. On croit qu'on a quand même les arguments, cependant tout le monde se prépare. En tout cas, ce serait, je crois, une compétition très ouverte et très compétitive.
Oumarou Sidiya Maïga, sélectionneur des Aigles Seniors Filles du Mali, au micro de notre correspondant Bamako, Siaka Traoré.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Quelques dossiers du jour pour terminer. La crise humanitaire au Soudan a une répercussion négative sur le Tchad. Les frontières entre les deux pays sont officiellement fermées depuis le 15 avril, mais les personnes fuyant la guerre entre les deux généraux soudanais continuent à utiliser le couloir humanitaire pour traverser. Débordé par cet afflux, le gouvernement tchadien et ses partenaires font appel aux forces armées françaises qui les appuient en moyens logistiques pour aider à relocaliser ces réfugiés qui s'entassent à Adré, ville frontalière du Soudan, vers l'intérieur du Tchad. Notre correspondant en N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
L'appui de l'armée française sur une demande conjointe de la part du HCR et de la République du Tchad, dans le sens où on est arrivé à 3000 personnes, à 4000 personnes par jour qui arrivent dans cette zone-là.
Hadjadj Souleymane, responsable du HCR dans la zone d'Adré, pour lui, son institution est débordée par l'afflux des réfugiés qui traversent les frontières par jour.
HCR a loué plus de 79 camions pour le déplacement des réfugiés de la frontière vers l'intérieur. Mais ceci n'est pas suffisant. Dans ce sens-là, on appelle encore une fois, la communauté internationale a s'intéressé plus à cette crise qui a un impact sur la zone et sur la région.
Les deux responsables de l'armée française en charge de l'opération, le colonel Emmanuel et le capitaine Romain, parlent de leur intervention et les moyens logistiques déployés sur le terrain pour aider à relocaliser ces réfugiés à l'intérieur du pays.
L'armée française n'est pas là pour les Soudanais. L'armée française a répondu à l'appel de l'État tchadien qui lui a demandé son concours avec la coordination du HCR. Et c'est bien ce trio de l'armée française, de l'État tchadien et du HCR qui répond surtout à la demande de la crise humanitaire.
On a environ 20 à 30 camions et on effectue donc les rotations entre les différents camps. Donc au quotidien, les choses se traduisent comme vous pouvez le voir actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une coordination entre l'UNHCR, la CENAR et mon détachement pour charger en bon ordre les réfugiés le site d'Ambélia pour le convoyer jusqu'à le site Bouang.
Le préfet d'Adré, chef lieu du département d'Assonga, Ali Mahamad Sebe, reconnaît que l'afflux de ces réfugiés n'est pas sans conséquence dans sa circonscription.
Nous sommes un peu débordés par rapport à la ville d'Adré même qui est estimée à 40 000 personnes. Mais aujourd'hui, nous vivons à peu près 150 000 personnes qui nous a rendu un peu la sécurité de vie et aussi vu la concentration de ces réfugiés. Il y a plusieurs maladies qui ont été signalées telles que la rougeole et aussi un certain cas de choléra. Nous inquiétons aussi pour d'autres maladies. Nous avons déjà sensibilisé toute la ville. Et aussi, nous avons lancé la semaine dernière la vaccination contre la rougeole à toute la population d'Adré et aussi les réfugiés.
Le chef de bureau de la CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés de la zone d'Ouadaï, Adoum Mahamad Ahmad, plaide pour que le développement local soit également pris en compte par les partenaires pour soulager la souffrance de la population autochtone.
Aujourd'hui, l'impact que ces personnes locales prennent est énorme. Nous savons que ces personnes locales ont aussi une situation sociale qui est similaire à ces populations qui viennent là parce qu'ils sont vulnérables, ils sont dans le besoin. Alors, la réponse à cela, le chef de l'État a fait l'appel à ce que nous puissions aussi, non seulement penser aux réfugiés, leur prise en charge, mais aussi en même temps imaginer comment nous allons ici apporter des réponses pérennes dans le cadre du développement qui permettront de profiter à cette population-là.
C'est plus de 100 000 réfugiés du camp d'Ambeléa qui sont en train d'être transférés avec l'appui logistique de l'armée française sur le nouveau site de Wouran à l'intérieur du pays. C'est une deuxième opération après le transfèrement de plus de 19 000 réfugiés de Borota vers Arkoum. André Kordoumadingar, de retour du camp des réfugiés d'Ambeléa, Adré Njamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, le programme d'industrialisation entamé par le gouvernement du président Patrice Talon commence à porter ses fruits. Premier producteur de coton d'Afrique, le pays a livré sur le marché américain des milliers de vêtements localement confectionnés. Une première qui marque le début d'une grande aventure, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Connu pour l'exportation de la quasi-totalité de son coton, le Bénin, depuis la mise en place de la zone industrielle de Glodibé, a décidé de donner un coup de fouet au secteur industriel. Laurent Gangré, c'est le directeur de l'Agence de promotion des investissements et des exportations.
L'État a vu juste de confier la responsabilité de mettre en place toute une unité industrielle de production de textiles, de mettre cela avec un partenaire technique de référence qui nous aide aujourd'hui à travailler dans ce domaine pour essayer de transformer la totalité de notre production de coton. Peraise, en tant qu'administrateur général de la zone, nous avons travaillé main dans la main avec le directeur général de la CIPI pour que les choses se passent dans de bonnes conditions ici à Glodibé, afin que les jeunes recrutés puissent travailler dans de bonnes conditions et que toute la structure qui a été mise en place par la CIPI puisse travailler et fournir ce que les clients ont réclamé.
Le premier client est la chaîne américaine de vêtements pour enfants, The Children Place. Elle a reçu une première cargaison de 70 000 pièces de polo et collants made in Benin. D'après Letondi Béton, directeur de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie, il s'agit d'un contrat d'approvisionnement avec la firme américaine de 700 000 pièces d'ici la fin de l'année.
Cette livraison d'aujourd'hui représente une étape importante dans le développement de l'industrie textile dans notre pays. Si la marque TCP Children's Place nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements comme le Bangladesh, comme le Vietnam et beaucoup d'autres destinations.
Le Bénin essaie d'exporter d'ici fin 2024 environ 3 millions de pièces de ses vêtements sur le marché américain. Les autorités entendent passer par les USA pour ravir d'autres clients sur le plan international. Les vêtements ne sont pas les seuls produits exportés par le Bénin. Le pays est également devenu un exportateur des noix de cajou transformées localement. 32 000 tonnes ont été convoyées à Dubaï. L'Étendue Béton se dit optimiste pour l'avenir.
Au Bénin, nous produisons à peu près 200 000 tonnes de noix de cajou et nous avons une capacité de transformation installée d'à peu près 40 000 tonnes. Sur ces 40 000 tonnes, seulement 20 000 tonnes sont effectivement transformées. Mais désormais, nous allons inverser cette tendance et donc dans cette zone, nous allons pouvoir transformer à minimum 100 000 tonnes de noix de cajou et nous allons progressivement augmenter la capacité de transformation de cette zone à 200 000 tonnes par an. Nous allons pouvoir augmenter la valeur que génèrent ces noix de cajou brutes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 468 millions de dollars US pour nos noix de cajou brutes. Quand nous allons passer à la transformation, nous allons pouvoir générer à peu près 1 milliard de dollars.
La zone industrielle de Glodibé reste un hub industriel sous-régional qui révèle le Bénin. C'est une opportunité pour tous. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Un rappel des titres de cette édition avant de vous quitter. Au Niger, le président Mohamed Bazoum, renversé par des militaires putschistes, il a insisté sur le fait qu'il est toujours président et n'entend pas accepter ce coup de force. Au Burkina Faso, l'armée dément de fausses informations sur des mouvements d'humeur dans certaines casernes américaines contre trois de ses responsables. frappe dans certaines casernes militaires au Burkina Faso et au Mali, la junte fustige les sanctions américaines contre trois de ses responsables. Washington appelle les dirigeants africains à confronter Vladimir Poutine sur la crise céréalière lors du sommet Russie-Afrique à partir de ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, plaide non coupable de fraude fiscale après la suspension d'un accord. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Jimmy Cook. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.